un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Et ce jour dans l'histoire est un jour récent, très récent même. C'est le 9 mai 2005. Mais que diable s'est-il passé 9 mai 2005? Eh bien, souvenez-vous, la place rouge, la grande parade, les soldats casqués et bottés, les drapeaux rouges, faucilles, marteaux. C'était Moscou. Moscou devant une cinquantaine de chefs d'État et Vladimir Poutine. On a dit le maître de cérémonie, Vladimir Poutine. C'était bien sûr une allusion, plus qu'une allusion, une commémoration au le 60e anniversaire de la victoire sur le nazisme, victoire sur le nazisme ou sur l'Allemagne d'ailleurs. Peut-être y a-t-il une nuance. On va le voir dans un instant avec Alexandra Viato. Bonjour madame.
Bonjour.
Alexandra Viato, d'abord il faut vous présenter parce que vous êtes polonaise d'origine et cela n'est pas, j'allais dire innocent. Cela n'est pas innocent forcément parce que vous avez une histoire et vous avez vécu cette histoire sur le plan charnel, personnel, intime. Vous êtes née à Cracovie en Pologne, vous vivez en France depuis votre enfance, depuis 1957 vous faites votre scolarité, vos études à Paris, vous êtes diplômée du troisième cycle sur l'URSS et sur l'Europe de l'Est à la Fondation Nationale des Sciences Politiques, donc à Paris, vous êtes docteur en études slaves à l'Université de Paris 4, votre thèse a porté sur la revue Novi Mir et le non-conformisme en URSS, vous êtes maître de conférence de la Sorbonne en 1992, puis vous êtes chargé de cours à l'Institut français de presse et à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. De 87 à 2002, vous y avez successivement assuré le cours sur l'information et la propagande en URSS et dans les pays de l'Est, celui sur la transformation du système soviétique de l'information et de la propagande, enfin le cours sur l'information et la désinformation. Et aujourd'hui, vous êtes professeur de journalisme européen à l'Université de Marne-la-Vallée. On l'aura compris, vous êtes spécialiste de tous les systèmes d'information et de désinformation, et plus particulièrement sur celui, qui est le maître du genre, hein, sur celui du système soviétique. Alors avec vous, nous allons analyser cette journée du 9 mai 2005. Mais d'abord, cette première question, pourquoi avons-nous choisi après tout le 9 mai 2005? On aurait pu choisir le 9 mai 1945, ça aurait été plus logique.
Non, vous avez tout à fait raison de souligner que le 9 mai 2005, il s'est produit quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait être grave si cela ne provoquait un sursaut des intelligences, mais qui peut s'avérer salutaire si nous prenons enfin conscience qu'en 1945, Staline a remporté une victoire sur le nazisme et l'Allemagne nazie, certes, mais aussi sur les démocraties occidentales. C'est ce que j'ai appelé dans un ouvrage « la victoire en deuil ». La victoire en deuil pour tous ces pays qui étaient européens depuis des siècles, qui faisaient la Pologne, par exemple, qui est au centre même de l'Europe et qui, tout d'un coup, étaient laissés dans un marchandage peu glorieux par les Occidentaux, à Staline, pour faire partie de ce qui porte bien son nom, le camp soviétique. En effet, c'était un camp soviétique, un glacis soviétique, et ce n'était pas un bonheur d'y vivre. À cette époque-là, même à cette époque, 44-45, il s'y produisait des exterminations, des liquidations physiques de masse, sur lesquels l'Occident et, hélas, la France fermaient les yeux.
Alexandra Viato, quand devant votre télévision vous avez vu Vladimir Poutine, quelle était votre réaction le 9 mai?
Double. D'une part, j'ai vu Vladimir Poutine, j'ai vu les anciens combattants qui manifestaient leur bonheur d'être encore vivants après tous ces combats. Et bon, ils ont le droit, les Russes ont tout à fait le droit de faire une démonstration de victoire. Par contre, ce qui est dramatique pour quelqu'un, pour un observateur comme moi, un spécialiste comme moi, c'est de voir que pas une voix ne s'élève du côté occidental et notamment du côté français. Et donc, je pense là notamment au président de la République qui aurait dû faire ce que le président Bush a fait. Et ce n'est pas Vladimir
George
Poutine
Bush qui a rappelé l'occupation et l'oppression
des pays baltes et de la Pologne. Et donc, tout simplement, ce ne sont pas les désinformateurs qui sont le plus choquants aujourd'hui. Ce sont les idiots utiles, ce sont ceux qui se laissent volontairement désinformer parce que cela, c'est un enjeu stratégique et pas seulement moral et politique.
Les idiots utiles, la formule est de Lénine.
La formule de Lénine, oui, tout à fait, mais il avait prévu avec justesse que c'est en Occident ces gens-là, les compagnons de route. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tellement de compagnons de route puisqu'il n'y a plus de système communiste nommé tel à l'Est et en Russie. Par contre, les idiots utiles, c'est-à-dire les gens à qui l'on peut faire croire qu'ils sont progressistes ou intelligents, parce que tout simplement ils s'auto-désinforment et refusent de chercher la vérité, de voir la vérité et d'écouter la vérité.
En fait, vous pensez que ce 9 mai 2005 aurait pu être une magnifique occasion de purger la mémoire collective européenne ?
Tout à fait.
Et on est passé à côté d'une belle occasion.
On est passé à côté d'une très belle occasion. Et d'une occasion sur laquelle je reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard, mais je vais vous citer ces mots extraordinaires de l'organisation de l'association Mémorial, qui en 1999, lorsque Moscou a tenté une énorme affaire de désinformation concernant l'agression de la Pologne et des Pays-Baltes en septembre 17.
En 99 encore,
alors que Moscou essaye de nier avoir agressé la Pologne, ce qui est quand même un comble, Mémorial dit ceci. Ce fut une agression qui marque le début de la tragédie de millions de Polonais, d'Ukrainiens, de Biélorusses, de Baltes. Nous ne voulons pas fuir cette responsabilité. Nous désirons simplement que les nations auxquelles l'URSS a infligé ces malheurs ne chargent pas de cette culpabilité tous les Russes vivant aujourd'hui. C'est d'une beauté qui aurait suffi à faire pardonner beaucoup de choses si Vladimir Poutine avait eu cette décence et cette grandeur de présenter d'abord des excuses, de reconnaître d'abord la culpabilité, qui n'est d'ailleurs pas la sienne, mais celle des dirigeants qui l'ont précédé.
Une forme de repentance.
Une forme de repentance qui est bien fondée, puisqu'il s'agit de millions d'êtres humains.
Mais un pays affaibli, un peu humilié, qui se voit un peu encerclé par la politique expansionniste des États-Unis, peut-il se permettre de s'affaiblir, de se mettre à genoux avec une repentance supplémentaire ?
Il ne s'agit pas de se mettre à genoux. Faire repentance, je n'ai pas l'impression que quiconque qui demande pardon pour des crimes commis soit humilié. Au contraire, ce qui a profondément humilié, alors là vous me provoquez tout de suite pour parler de cette campagne de désinformation qui a ridiculisé la Russie, en 1999 et là l'a humilié profondément, c'est lorsque le 14 septembre 1999, le ministère des Affaires étrangères russe a lancé une déclaration affirmant, je le cite, que les actes en question, c'est-à-dire l'occupation du tiers du territoire polonais de l'époque, conformément aux clauses du partage de la Pologne entre Hitler et Staline, et une extermination décidée et exécutée en commun de la résistance anti-nazie polonaise, eh bien, je reprends la citation, que ces actes étaient dictés non par la volonté d'occuper les territoires étrangers, mais par la nécessité d'assurer la sécurité de son propre pays. Et les Soviétiques, alors c'était très très étrange parce que les Russes...
Ça vient de Moscou.
Ça vient de Moscou. C'est le ministère des Affaires étrangères de Moscou qui a cru que les Occidentaux n'allaient pas marquer le coup du soixantenaire de l'occupation de la Pologne et des Pays-Baltes. Et donc, en plus, c'est à cette époque qu'apparut mon livre « Staline assassine la Pologne ». Mais ce livre qui devait paraître le 1er septembre, au seuil, apparut le 17 septembre. Et donc, ils ont vraiment cru que rien ne serait fait en France. Or, et bon, la Pologne, ils savaient très bien que même si la Pologne proteste, bien personne ne sent que ça ne provoquera pas de choc salutaire.
Un petit détour, Alexandra Biateau. Ce livre a disparu de la bibliothèque slave.
Oui, je vous en parlerai tout à l'heure. Rappelez-moi de vous en parler tout à l'heure parce que c'est toute une guerre des bibliothèques qui se livrent. Mais pour revenir d'abord à ce...
Là, c'est presque de l'espionnage, là.
Donc, non seulement le président polonais lui-même a pris la parole pour accuser la Russie de, je cite, « falsifier l'histoire dans sa présentation de l'invasion soviétique de la Pologne en 1939 », lire bien « invasion soviétique de la Pologne en 1939 », deux semaines après l'entrée des troupes nazies, non seulement lui-même, mais la France, qui m'a demandé, enfin le Radio France International m'a demandé d'en parler sur ses ondes. Et donc,
oui, parce que je précise que vous avez été journaliste, indépendante, mais à Radio France Internationale et à La Croix.
Tout à fait. Et là, j'intervenais tout simplement en tant que spécialiste. Et donc, quand ils ont vu cette réaction qui ne permettrait pas de passer une telle énormité, et quand justement, pour revenir à ce que vous disiez, quand Moscou a vu que c'était quand même se ridiculiser que de prétendre et que d'affirmer de si gros mensonges, si vulgaires, eh bien, un diplomate de haut vol, Alexandre Yakovlev, président d'une commission des victimes politiques près la présidence russe à Moscou, déclara qu'il s'agissait, je le cite, « il s'agit probablement d'une initiative des employés du ministère ». Donc là, l'explication est un peu drôle, parce que je ne vois pas en Russie des employés du ministère qui prennent des initiatives de ce poids politique. Mais enfin, l'explication
c'était
est venue.
C'était pour faire retomber la responsabilité sur des lampistes.
Absolument, les lampistes ont été dénoncés. Et donc, nous avons eu gain de cause.
C'est en 99, c'est quand même très récent.
C'est très récent et ça aurait dû montrer à Vladimir Poutine, bon à l'époque c'est le président Yeltsin qui était président, mais ça aurait dû montrer au président Poutine que le mensonge, les dénégations contre toute vérité humilient davantage un pays que la vérité. Et d'ailleurs, cette humiliation des Russes est exprimée par un journal russe, Les Nouvelles de Moscou, repris par le dossier du Courrier international de la semaine dernière. En première page de ce dossier, justement, le Courrier international cite les nouvelles de Moscou, Moskovskie Novosti, qui disent « c'est une humiliation pour les Russes que de mentir à ce point ». Et donc là, je voudrais dire qu'il y a une campagne. Il y a une campagne de mensonges, mais il y a aussi, on peut aussi parer, on peut aussi combattre pour la vérité. Et là, j'avais donc sensibilisé mes étudiants qui sont allés faire des interviews au Courrier international et les journalistes du Courrier international, sensibilisés par les étudiants qui leur ont rappelé qu'il y aurait ce 9 mai, ont donc travaillé très sérieusement sur la question. Et à l'époque de ce mensonge en 99, c'est également l'agence France-Presse qui a pris fait et cause pour le terme « agression » de la Pologne et qui ont rappelé que mentir à ce point n'est pas du tout respectable.
Agression, invasion, les mots sont essentiels. On le verra tout à l'heure, Alexandra, bientôt.
Tout à fait.
On marque une première pause.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
Canal Académie.
Bah oui, le 9 mai 2005, c'est un jour récent, mais c'est déjà un jour dans l'histoire parce que c'était le 60e anniversaire de la victoire sur le nazisme, sur l'Allemagne nazie. C'était à Moscou, devant une cinquantaine de chefs d'État. On en parle avec Alexandra Viato, qui est d'origine polonaise, professeure en journalisme européen à l'Université de Marne-la-Vallée. Alors, je ne reviens pas sur votre cursus, mais vous êtes grosso modo spécialiste de la désinformation de l'Union soviétique. Vous êtes d'origine polonaise et on verra tout à l'heure que, je le disais d'ailleurs au début de cette émission, que vous avez vécu intimement ces événements par votre père, tout simplement. Hein. Et vous êtes aussi spécialiste de Katyn. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce massacre qui est reconnu par l'ONU comme étant un crime contre l'humanité. Et ça aussi, c'est un aspect très important qui est passé souvent sous silence. J'observe aussi, Alexandra Viato, que vous avez créé un site géopolitique, diploweb.com.
Non, non, je n'ai pas créé. Non, non, ce n'est pas moi qui ai créé, c'est Monsieur Pierre Verluis qui a créé le site et j'y suis conseiller scientifique. Donc le site diploweb.com est le site du Centre géopolitique créé par Pierre Verluis, qui est enseignant d'histoire, et j'y suis conseiller scientifique et auteur de nombreuses études très fouillées précisément sur tous ces aspects de la désinformation, des
C'est toujours la bataille de la vérité.
C'est
hein.
toujours la bataille de la vérité. Oh, j'ai écrit aussi d'autres choses parce que la désinformation touche des domaines divers et variés, mais ce domaine qui est une de mes spécialités, j'écris souvent sur ce thème.
Vous parliez à l'instant de la Russie, du mensonge, de la honte que représentait pour la Russie d'aujourd'hui le fait de ne pas dire la vérité sur les crimes soviétiques. Mais une question toute simple, qui exige de la Russie qu'elle dise la vérité ? Personne.
Absolument, vous
Alors
avez raison.
Alors pourquoi dirait-elle la vérité ?
Eh bien, c'est extraordinaire ce que vous dites parce que j'ai là devant les yeux le rapport manuscrit d'Alexandre Chélépine, qui était en 1959 chef du KGB d'Union soviétique. Et,
à la belle époque, après la mort de Staline, mais c'était encore la belle époque.
C'était encore la belle époque, mais 59, c'était après le printemps en octobre de 56 en Pologne. Et Nikita Khrushchev se demandait si finalement, après cette saignée terrible, cette extermination de, enfin tout de même, 1 500 000 Polonais sont morts de la main des Soviétiques. Et comme vous venez de le dire, l'ONU n'a pas affirmé que Katyn relevait du génocide. Dans la déclaration sur le génocide de l'ONU, il y a des clauses qui sont applicables absolument à Katyn. L'Union soviétique à l'époque de stalinienne avait fait des pieds et des mains pour essayer de limiter le génocide aux crimes fascistes et nazis. Mais l'ONU a refusé. L'ONU, qui en général cédait toujours à l'époque à Staline, eh bien là, elle a dit non, stop, parce que dans ce cas-là, on limiterait le jugement des crimes. Or, la définition des crimes est beaucoup plus vaste et on laissait entendre que donc tous les crimes soviétiques relevaient du génocide. Et en effet, quand on étudie aujourd'hui la Convention sur le génocide, eh bien, elle s'applique parfaitement aux crimes staliniens et soviétiques.
Mais avec le Rwanda, la définition a forcément évolué, c'est forcément étendu à d'autres ères que l'ère fasciste et nazie qui est ancrée dans l'histoire.
Absolument, ne serait-ce que de ce point de vue, vous avez parfaitement raison. Donc 1959, l'affaire de Katyn, Khrushchev a un peu l'impression qu'effectivement c'est la honte. Ce Katyn, ce silence sur Katyn, ce mensonge sur Katyn, c'est une honte. On est dans la grande campagne de dénonciation des crimes de Staline, tous les dirigeants communistes cherchent à se prémunir contre le jugement en disant tout ça c'est la faute de Staline. Donc ce serait une bonne occasion de dire que Staline a assassiné tous ces gens-là et que désormais nous démarrons tout propre, tout neuf. Et la note manuscrite donc que Chélépine adresse à Khrushchev est la suivante. Il dit que reconnaître le crime de 1940 est inutile, car cela pourrait déconspirer l'opération de nos organes, donc de nos organes de police qui ont monté tout le mensonge, et avoir des conséquences peu souhaitables, alors que la négation soviétique est devenue une thèse solidement implantée dans l'opinion publique mondiale. Et donc, il ne faut pas toucher ce problème, puisque l'opinion mondiale, au pire, croit que, ne sait pas si c'est les Soviétiques ou les Allemands qui ont tué, et au mieux, travaillé par les compagnons de route, par les idiots utiles, etc., croit dur comme fer que c'est encore un crime nazi et donc il ne faut pas toucher les choses. Et alors ce qui est drôle,
il y a l'argument aussi bureaucratique, là, il ne faut tout simplement pas décourager le personnel.
Tout à fait, oui, et en plus c'est très drôle parce que maintenant, aujourd'hui, Vladimir Poutine argue devant les Polonais qui exigent que finalement on récupère tous les dossiers et qu'on juge l'affaire, qu'on mette les choses au clair. Au point, parce que au clair, c'est fait. Et Gorbatchev a reconnu la culpabilité de Moscou. Yeltsin a donné toutes les preuves de la culpabilité de Moscou au président polonais. Et donc, maintenant, il s'agirait plutôt d'un procès, c'est-à-dire en profondeur. de voir qui, quoi, comment, quand...
Ce n'est pas une affaire entendue, close pour vous.
C'est une affaire entendue. C'est une affaire entendue. Mais comme dans tout procès, il y a les problèmes, d'ailleurs ne serait-ce que des indemnités, donc il faut savoir les noms,
voilà,
les...
Bon, il manque les suites quand
il
même.
Il manque les... Pas tellement les suites que les données les complètes. Complètes, qui sont toutes les victimes, les listes, etc. Et à ce moment-là, Vladimir Poutine dit que non, parce que en 59, une partie de la documentation a été détruite. 59, c'est-à-dire la date de cette note de Chelepin, du chef du KGB. Donc apparemment, le KGB, bon, d'une part, il a arrêté Khrushchev, il lui a dit de ne pas dire la vérité, mais d'autre part, mis en danger, a procédé à la destruction de nombreux dossiers qui manquent, mais qui ne sont pas fondamentaux, car le procès des coupables et toute la documentation, je suis bien placée pour le savoir, pour avoir écrit des ouvrages là-dessus.
Vous pensez qu'un procès aura lieu?
Eh bien écoutez, il devrait avoir lieu, mais comme vous voyez, le président Poutine se défend des pieds et des mains, on dirait vraiment qu'il est concerné personnellement, alors qu'il n'est pas de la génération des assassins.
Mais il y a une incohérence quand même, parce que l'affaire, l'Union soviétique d'une manière générale, ou plutôt la Russie avec Gorbatchev, Eltsine, ont grosso modo, vous l'avez dit, reconnu leur culpabilité.
Tout à fait, même pas grosso modo.
Enfin pas grosso modo, nettement. Enfin, dans l'ensemble.
Oui.
Et le 9 mai 2005, on assiste à une répétition, à une grande parade qui a un air de déjà-vu et à une façon de se recroqueviller sur une période de l'histoire à laquelle l'Union soviétique était, je dirais, entièrement partie prenante, qui rappelle les grandes heures de l'Union soviétique.
Tout à fait.
Ce n'est pas incohérent, ça, le fait d'avoir reconnu Katyn et de l'autre côté, glorifié l'Union soviétique ?
Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que il faut condamner ce qui est incohérent. Ce qui est incohérent, c'est de ne pas condamner tous les crimes, pas seulement Katyn, mais de ne pas vraiment nettoyer la conscience, libérer la conscience et apurer le problème des crimes de l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique, c'est aussi des Russes. C'était aussi des gens qui ont souffert eux-mêmes. Écoutez, Lénine et Staline ont exterminé plus de 50 millions de ressortissants soviétiques. Je pense que c'est Gorbatchev qui a dit qu'il n'y avait pas de famille, y compris la sienne, et qu'il n'y avait pas de victimes de ce régime. Et pas seulement stalinien. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 1 500 000 Polonais qui ont été victimes de Staline, mais il y en a 2 700 000 victimes depuis Lénine. Donc, vous voyez, ce n'était pas tout d'un coup une poussée de fièvre.
Et y compris sous Khrushchev, la répression a été
très
dure.
Tout à fait. Moi-même, lorsque j'étais au Vatican, j'ai mené une action pour libérer de prison et du goulag un prêtre et une laïque catholique qui étaient en train de mourir en prison et au goulag.
Oui, vous avez été correspondante à Rome pendant 5 ans,
tout
au Vatican.
À fait. Et donc il y a cette différence, cette distinction subtile à faire entre l'Union soviétique, contrainte et forcée, enfin, Union soviétique contrainte et forcée à ce régime, et les crimes des dirigeants de l'Union soviétique. Mais cette parade, cette cérémonie, qui elle aussi mélangeait les deux aspects, d'une part les anciens combattants qui ont vraiment combattu, qui défilaient là, et là je prends aussi la défense du général Jaruzelski, bon, le dirigeant polonais communiste, au temps de Solidarność, qui a imposé l'état de guerre. Mais c'était un ancien combattant. Il a été déporté enfant. Ses parents sont morts en déportation. Ce n'est pas de gaieté de cœur et qu'il a été enrôlé dans l'armée polonaise.
Il y a toute une histoire complexe
derrière. Et donc, autant il faut être intransigeant sur la vérité, sur le jugement des crimes, autant on ne peut pas rayer d'un trait de plume tout un passé soviétique et de gens qui en ont, qui soit n'ont pas commis de crimes, soit ont été les victimes de ces crimes. Donc là, c'est les deux choses. Mais d'autant plus, c'est d'autant plus scandaleux cette faucille et le marteau, cette remise de Staline à l'honneur, Et alors, je vous dirai une chose qui est très importante. Très importante. Le président Kwaśniewski, donc polonais, qui lui est allé, mais en déclarant, et d'ailleurs c'était la bonne attitude, c'est-à-dire y aller d'une part, mais d'autre part, déclarer haut et fort qu'il y avait des crimes qui étaient commis à l'occasion de cette occupation nouvelle et oppression soviétique en 44-45. Et Kwaśniewski a dit qu'il compte sur le soutien de ses partenaires européens au cas où le président Poutine chercherait à profiter du 9 mai pour glorifier en bloc le passé soviétique et Staline. Et cela, nous ne l'avons pas fait.
Et c'est donc, le silence de l'Europe.
C'est le silence de l'Europe.
Le silence de l'Europe
et de la part
assourdissant.
De l'Europe, c'est assourdissant.
Canal Académie.
Smert fascistam, en russe, hein, mort au fascisme, je crois. Smert communisme,
oui.
mort au communisme. Mort au fascisme, évidemment, les soldats sur la place rouge le 9 mai dernier ont certainement crié ce slogan. Hein. C'était à l'époque, bien sûr, de 1945. Nous, on a choisi la date du 9 mai 2005 pour des raisons essentielles, hein, pour Alexandra Viato, qui est historienne spécialiste de la désinformation. Une des raisons essentielles, c'est l'enjeu de la vérité, de la mémoire, de la falsification de l'histoire. Et on a encore des choses à dire sur la désinformation en particulier. Désinformation, le mot me vient immédiatement à l'esprit. D'abord, c'est un mot un peu d'origine russe. Hein. Ça vient de l'Est, un peu, désinformation.
Puis, ah oui, tout à fait, c'est léniniste.
Voilà.
C'est Lénine
qui a
élaboré la grande méthode de la désinformation.
Alors c'est très subtil, ça mêle tout, ça mêle aussi l'esprit russe, toute la subtilité de l'esprit aussi oriental peut-être de l'Europe. Nous les autres latins sommes peut-être un peu plus bourrus, je sais pas, ou les anglo-saxons sont peut-être un peu plus bourrus, en tout cas les slaves savent y faire. Bon, on y reviendra peut-être.
Oh non, ne mêlez pas les slaves à tout ça, non.
Il y a une prédisposition naturelle quand même. Il n'y a pas une prédisposition naturelle.
Non, c'est spécifiquement marxiste léniniste. Et dans la mesure où le marxisme léniniste s'est étendu à beaucoup de pays, c'est donc devenu une pratique assez étendue. Mais même lorsqu'elle est pratiquée en Occident parfois, elle emprunte les méthodes soviétiques. J'appelais ça la prise du butin. C'est que même après la chute du mur de Berlin, eh bien finalement, c'est l'un des piliers de l'Union soviétique, l'armée, la police et la désinformation, la propagande de la désinformation. Et donc, ça fonctionnait si bien que tout le monde s'est servi, mais pas aussi bien. Là, vous avez tout à fait raison. Les soviétiques sont maîtres. Et donc, les Russes qui ont hérité de cette méthode, oui, bien sûr. Les autres, à force d'avoir été occupés et d'avoir lutté contre, sont devenus des spécialistes de contre-désinformation. De contre-désinformation, comme on devient spécialiste du contre-espionnage.
Vous nous en parlerez. Je reviens à Katyn, parce que vous êtes lié à cette histoire, hein, d'une manière ou d'une autre, j'allais dire, par votre famille,
simple.
D'une manière extrêmement simple.
D'une manière très simple, c'est que j'ai voulu, en tant que jeune journaliste à Radio France, faire un papier, faire un reportage sur Katyn à l'occasion du 40e anniversaire, et que je me suis heurtée à une fin de non-recevoir, à un refus absolument énergique et définitif. J'ai mon bobino, comme on dit, à valser dans la corbeille à papier, et on m'a dit, j'étais pigiste, que...
Le bobino, c'est la bande-son.
C'est la bande-son, hein. Oui, la bande-son. Et j'ai emporté ma bande-son, et je suis allée traiter de l'affaire de Katyn ailleurs, non sans problème, puisqu'un grand journaliste de l'époque m'a dit, ma pauvre enfant, si vous commencez à traiter ce sujet, on va vous briser les reins. Eh bien, j'étais entêtée, j'étais têtue, la vérité me tient à cœur, et j'ai fini par écrire un livre sur Katyn, qui en 1982 a fait écrire à la revue de l'IFRI, de l'Institut français des relations internationales, que désormais il n'y a plus aucun doute que les soviétiques sont les coupable du massacre de Katyn.
Et ce livre, c'est Katyn, l'armée polonaise assassinée.
Ce livre, c'est Katyn, l'armée polonaise assassinée, qui disparaît des fichiers au moment, il y a quelques mois, disparaît des
comme
fichiers,
par enchantement.
Pas comme par enchantement, des bibliothèques. et ainsi que Staline assassine la Pologne, et donc une collègue aux éditions du Seuil, donc une collègue de l'université.
Et qui a valu à Stéphane Courtois de ne plus travailler au Seuil.
Je pense qu'il s'est, oui, il s'est brouillé à cette occasion avec le Seuil, ou bien le Seuil s'est brouillé avec lui. En tout cas, bref, sa collection.
Vous incriminez les réseaux.
Sa archi.
Pseudo-soviétique.
Je ne sais pas si c'est les réseaux. Je sais toujours. Vous savez, je n'ai jamais aimé le mot réseau complot. Par contre, c'est une réalité que pour appliquer une stratégie, y compris de communication, il faut des impulsions. Et donc, il suffit de trouver d'où viennent les impulsions pour savoir qui ou quel réseau, quels intérêts lancent ou au contraire font disparaître certains thèmes. Mais c'est toujours des stratégies et ces stratégies ont toujours existé, ces stratégies de communication, soit de mensonge, soit de vérité. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Par contre, il faut être extrêmement vigilant. Et c'est là que je voudrais dire que la vérité, la recherche de la vérité, la lutte contre la désinformation, donc la contre-désinformation, ce n'est pas seulement un enjeu moral et politique. Qui pourrait paraître extrêmement élitaire et très, très abstrait. Non, c'est aussi un enjeu vital. C'est un enjeu stratégique. Et c'est un enjeu qui devrait faire l'objet des soucis de toutes les sécurités du territoire, y compris du territoire mental. Du patrimoine mental. C'est quelque chose qui est important. Et je vais vous citer l'exemple de mon grand-père, justement, le général Bernard Stanislas Monde, qui était général polonais et qui était commandant de division et de la garnison de Cracovie avant la guerre. Et donc, la guerre éclate et il fait campagne. Il ne se retire pas vers la Roumanie. Lui, il combat avec sa division jusqu'à la dernière cartouche. Très longtemps, ce n'est pas du tout un blitzkrieg. Le blitzkrieg, par contre, c'est un terme de propagande hitlérienne. Il ne s'agissait pas d'un blitzkrieg, c'est-à-dire pas d'une campagne foudroyante. Elle a duré un mois et cinq jours, sans aide occidentale. Donc, finalement, elle a échoué au moment où les soviétiques...
Les Polonais se sont battus, comme les Français, d'ailleurs, qui ont perdu 100 000 hommes en 1940.
Les Polonais se sont battus, je dirais même, un petit peu... Dans des conditions beaucoup plus dramatiques, parce que le 17 septembre, ils sont attaqués, ils sont pris à revers, c'est le fameux couteau dans le dos des Soviétiques.
Ben oui, ils sont envahis par le côté.
Les Soviétiques et les Allemands concoctent une campagne commune, ils mènent une campagne militaire commune, et donc c'est... Mais donc, revenons à mon grand-père, il combat jusqu'à la dernière cartouche, à un moment donné, son état-major lui propose de se retirer vers l'Est. Or, mon grand-père, qui a combattu en 1920 à l'Est, avait vu sur place ce dont les bolcheviks étaient capables, ce qu'ils faisaient aux populations polonaises, ukrainiennes, biélorusses sur place, et il a dit à son état-major non. Non, nous allons combattre jusqu'à la dernière cartouche, mais nous retirer vers l'Est, ce serait nous condamner à mort, car si nous tombons aux mains des Soviétiques, eux, ils vont nous exterminer dans un sous-bois quelconque, ils vont nous assassiner sur place. Et ce qui est... il a sauvé ainsi la vie. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est en Pologne populaire encore que des anciens militaires polonais m'ont dit en grand secret, m'ont raconté cette histoire qui a été confirmée par la suite par les archives. Mais à Cracovie, sur une des plus belles classes de Cracovie, il y a une plaque commémorative de mon grand-père et du général Smorawiński, qui, lui, est mort à Katyn. Parce que lui, Smorawiński, ne connaissait pas, il n'avait jamais pratiqué l'Est. Et donc, il n'avait pas vu les bolcheviks à l'œuvre.
Et il
s'est retiré vers l'Est.
Ah là là.
Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement un enjeu moral. C'est aussi un enjeu vital pour son pays. C'est un enjeu vital pour nous, pour l'Europe, de savoir contrer, de connaître assez bien l'histoire de l'Europe pour pouvoir contrer les mensonges stratégiques de Vladimir Poutine. Aujourd'hui.
Alors, tout à l'heure, Alexandra Viato, de procès.
Oui.
Bon, vous nous disiez que vous n'écartiez pas l'hypothèse qu'un jour ait lieu un procès de Katyn, par exemple. Mais qui viendra parler à ce procès?
Mais c'est bien cela, c'est bien le calcul à long terme. C'est qu'il faut au moins, d'ailleurs, je pense que dans un des documents, donc dans la suite de chez Lépine du KGB, il y avait cette observation qu'en tout cas, il faut éloigner les choses jusqu'à la mort des témoins. Vous voyez, effectivement, votre question est très pertinente. C'est quand il n'y aura plus de survivants, ni parmi les victimes, ni parmi les assassins, qui va témoigner, comment on va faire le procès, sauf évidemment sur les archives. Donc on détruit une partie des archives, on bloque une partie des témoignages, on attend la mort des victimes et des assassins, car certains assassins, c'est-à-dire certains exécuteurs de Catigne, étaient encore vivants au début des années 90 et ont été interrogés. Alors, je voudrais vous donner l'information par la magistrature militaire polonaise et russe ensemble. Et alors, ce qu'on essaie évidemment de faire ignorer, et je dois dire qu'il n'y a pas eu un organe de presse en France qui ait jamais fait la couverture de ces événements, c'est que il y a eu décision de chercher les autres charniers, car vous savez que les Katyn, ce n'était qu'un charnier, le charnier d'une partie des officiers assassinés. On y avait trouvé grosso modo 5000 officiers, alors qu'il y en avait eu 25 officiers et résistants civils, dont Staline et le Politburo ordonnaient l'assassinat, ce qui figure sur le document livré par le président Yeltsin au président Wałęsa à l'époque, à Waleza à l'époque. Et donc, à ce moment-là, on a entrepris la recherche, d'après les archives, d'après les indications, des autres charniers que l'on a trouvés. Il y a trois autres charniers, il y en a beaucoup plus d'ailleurs, mais les trois principaux autres charniers. Et il y a eu des exhumations et des reconstitutions qui ont été filmées. La technique nouvelle était déjà disponible et donc moi j'ai vu 5 ou 6 heures de films.
C'était quand ?
91, 90, 91, 92. Et donc, il y a des films, on voit les exhumations, on voit... Et la procurature, enfin la magistrature militaire, et les Polonais, Russes, interrogent les exécuteurs. Et il y a donc les témoignages. Moi-même, en France, j'ai réussi à publier dans des revues historiques, dans Historia notamment, une fois, et dans ce livre, Staline assassine la Pologne, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est en train de devenir un loup blanc, parce que tout simplement, on est en train de l'occulter et de le faire disparaître des fichiers des bibliothèques, parce que tout simplement, ces documents existent.
Il y a des noms là-dedans ?
Bien sûr, il y a des noms. Je me suis efforcée, c'est un ouvrage peut-être pas grand public, dans ce sens que justement, il y a des noms et des noms et des dates, mais c'est absolument...
Donc on sait. On sait
et
qui,
on, peut donc
on sait quand, on sait tout.
Absolument, on peut donc entreprendre un procès n'importe quand. Selon, si j'ai bonne mémoire, dans la convention de l'ONU, il est dit que n'importe quel membre de l'ONU, donc n'importe quel pays membre de l'ONU, peut demander le procès, le jugement d'un crime contre l'humanité, d'un crime de guerre contre l'humanité ou génocide. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le Kremlin hurle à ce point, et le Kremlin, c'est ses compagnons de route et nos idiots utiles, hurle tellement pour qu'on n'assimile surtout pas Katyn à un crime contre un génocide, crime contre l'humanité, génocide.
Là, ça enclencherait la procédure du procès.
Ça enclencherait la procédure du procès et n'importe quel membre, donc la France, la Pologne, n'importe qui, pourrait demander que la Russie et que l'Union soviétique soit jugée.
Alors, remarquez, on voit déjà les difficultés au Cambodge, alors que c'est reconnu comme génocide.
Imaginez.
Les difficultés pour organiser un procès.
Imaginez. Alors maintenant, je vais arriver à un point qui est le plus douloureux pour moi, pour nous tous, c'est l'utilisation et la récupération par Moscou de l'Occident, et en particulier de la France, peut-être la plus vulnérable. Et là, c'est quelque chose, mais ce qui explique aussi un petit peu...
Ce que vous nous dites là, c'est qu'en réalité, il n'y a personne pour prendre le relais de la contestation de la vérité en Occident. Que toutes les consciences sont grosso modo anesthésiées.
Heureusement, pas toutes, mais on entretient très soigneusement. Voilà, ce qui est important pour tout... Bon, on appelle ça lobby, vous parliez des réseaux, etc. En fait, ce sont des lobbies, bon, ce qu'on appelle en langage moderne et ce qui existe dans... Et on entretient...
Un anglicisme. Hein.
C'est un, oui, absolument. Je préfère votre terme de réseau.
Groupe
de pression, voilà. Donc, effectivement, il est absolument vital d'entretenir l'anesthésie. D'entretenir l'anesthésie et d'entretenir une certaine dépendance. Et ce qui, ben là, ça nous amènerait un peu loin.
On reste dépendant de votre discours, mais dans un instant.
Entendu.
Vous écoutez Canal Académie.
Le petit père des peuples. Bah oui, le petit père des peuples, ça rappelle une grande figure, je n'en sais rien. En tout cas, une grande figure de l'histoire. Vous savez, dans les dictionnaires, Hitler est désigné sous le signe dictateur allemand et Staline, homme d'État soviétique.
Oui.
Homme d'État ou... Bon, dictateur, bien sûr. Hein,
pour... Dictateur, bien sûr.
Ça ne fait
homme
plus
d'état,
aucun doute au regard de l'histoire, Alexandra Viato.
Hélas, les hommes d'État peuvent aussi être des barbares. Et Staline en était un, mais certainement, si l'on entend par homme d'État un homme d'une immoralité absolue et d'une capacité de berner, de tuer, d'imposer sa volonté, oui, je suis d'accord, et justement, on y arrive. Donc, vous savez comme moi qu'à l'école, on a longtemps enseigné que le pacte Ribbentrop-Molotov, c'est-à-dire entre Hitler et Staline, était un pacte de non-agression, jusqu'à ce que Moscou, poussé dans ses retranchements par la Pologne et la Lituanie, qui lui ont montré les originaux des protocoles secrets, ait dû reconnaître qu'il s'agissait d'un pacte d'agression. Et donc, que disait Staline que l'on a présenté ce 9 mai comme le libérateur de l'Europe? Eh bien, que disait-il dans un discours au Politburo le 19 août 39, quelques jours avant que le pacte ne soit rendu public? Il disait ceci: le premier avantage que nous recueillerons de notre accord avec l'Allemagne sera l'annexion de la Pologne jusqu'aux abords de Varsovie avec la Galicie ukrainienne. L'Allemagne nous donne une liberté d'action totale dans les États baltes et ne s'oppose pas à la réincorporation de la Bessarabie dans l'URSS.
Bessarabie près de la Roumanie.
Considérons maintenant l'hypothèse de la victoire allemande, dit Staline en 1939, en septembre 39, en août 39. Si l'Allemagne gagne la guerre, elle en sortira trop affaiblie pour pouvoir commencer un conflit armé avec l'URSS pendant au moins 10 ans. Il y a encore un facteur qui renforce notre sécurité. Dans une France vaincue, le Parti communiste sera toujours très fort. La révolution communiste aura immanquablement lieu et nous pourrons dans ces circonstances venir en aide à la France et en faire notre allié. Nous aurons alors un large espace pour construire la révolution mondiale. Camarades, le déclenchement de la guerre entre le Reich et le bloc capitaliste anglo-français est dans l'intérêt de l'URSS. Il faut tout faire pour que la guerre dure le plus longtemps possible. Et il faudra activer la propagande dans les États belligérants et être prêt lorsque la guerre finira.
C'est un fin stratège, hein ?
C'est un fin stratège, mais vous voyez à quel point nous nous couvrons de ridicule, nous, Français et Occidentaux, quand nous fêtons sa victoire le 9 mai à Moscou.
Mais quand on voit les choses de l'autre côté, évidemment, ça prend une autre tournure.
Alors évidemment, vous me demandiez si le président Poutine peut fêter. Ah mais bien sûr, les Russes peuvent fêter, mais pas nous. Pas nous. Et alors, en 1944, puisque les prévisions de Staline se sont réalisées et que la France a failli être vaincue, mais par une admirable stratégie du général de Gaulle, elle a figuré parmi les vainqueurs. Et donc, il fallait donc que la France de Gaulle serve avant tout à empêcher la création éventuelle d'un bloc occidental anglo-américano-polonais en Europe. Eh bien, à l'occasion de la guerre en Irak, la propagande et la diplomatie russes ont réussi une nouvelle fois à faire en sorte d'empêcher la création d'un bloc occidental anglo-américano-polonais en Europe en utilisant la France comme bélier contre les démocraties anglo-saxonnes.
Est-ce une constante de la diplomatie russe ou alors est-ce une résurgence des pratiques soviétiques ?
Non, c'est une résurgence des pratiques staliniennes et soviétiques. Absolument. Et donc, il faut, et je lis encore, « Étant donné la défaite de l'Allemagne, il nous faut sur le continent de l'Europe un contrepoids à l'Angleterre et aux États-Unis. L'unique pays qui peut jouer ce rôle est la France. Si l'on n'a pas besoin d'une France faible, nous n'avons pas non plus besoin d'une France trop forte. »
La France, c'est vraiment le ventre mou dans cette histoire.
C'est vraiment le ventre mou. Et c'est pour ça que nous, en France, devons être encore plus vigilant que quiconque. L'Angleterre, les États-Unis sont plus à l'abri, quoique pas tellement non plus, puisque en 1944, l'Angleterre et les États-Unis, bon, le président Roosevelt est complètement soumis à Staline. L'Angleterre,
à ce point,
complètement. C'est le président Truman qui va redresser la barre.
Et si tu as l'état de santé de Roosevelt
ça tient à l'état de santé, ça tient à un réseau d'espionnage soviétique extrêmement efficace. Mais en tout cas, le président Roosevelt, et si j'ai étudié il y a quelque temps aussi, le fait que le président Roosevelt a livré des secrets défense à l'Union soviétique, enfin, c'est allé très loin. Heureusement, le président Truman a arrêté les choses. Et le Saint-Siège. Alors, ça peut paraître étrange, parce que le Saint-Siège est une puissance spirituelle, mais le Saint-Siège a essayé à l'époque, j'ai écrit tout un chapitre sur ce point dans Staline assassine la Pologne, de freiner les Anglais et les Américains dans leur volonté de faire alliance avec les Soviétiques. Et donc, dans une correspondance entre les nonces du Saint-Siège et le Saint-Siège lui-même, on voit que cette action est difficile et qu'elle est menée avec inquiétude par le Saint-Siège. Il ne faut pas se limiter à défendre, c'est curieux de lire ça sous la plume du Saint-Siège, il ne faut pas se limiter à la liberté religieuse que nous promettent fallacieusement les soviétiques, parce que bien sûr, ils n'avaient pas l'intention de respecter cela. Mais il faut exiger le respect de la liberté dans tous les domaines, y compris des laïcs. Et donc, il ne faut pas se laisser tromper.
Le Saint-Siège était très bien averti.
Était très bien averti.
Alexandra Viateau, il nous reste à peu près 5 minutes. J'aimerais évoquer deux choses en 5 minutes. La première, c'est peut-être l'aspect sémantique. Vous savez, nous sommes à l'Académie, les mots sont trompeurs, les mots sont ambigus, peut-être un petit florilège. Il y a aussi l'affiche que vous deviez nous décrire. Ça, on va le faire tout de suite, tenez.
Oui, tout à fait. Parce que j'y tiens, parce que
en quelques secondes.
Vous parliez à la fois du vocabulaire. Immédiatement, disons que les réseaux pro-communistes et on ne sait plus comment dire, soviétiques ou russes aujourd'hui, nous écoutent, pro-soviétiques en Russie, disons, nous écoutent, eh bien, ils diront les réactionnaires. Ce sont des réactionnaires, ce sont des gens qui sont des archéos, des has-been, etc. Eh bien, je tiens à souligner, lorsqu'elle était morale et non dogmatique et opportuniste et politicienne, cette gauche-là a dénoncé les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides de l'URSS et de Staline. Avant même la guerre, en 1938, car il ne faut pas oublier que les crimes staliniens, eux, ont commencé depuis donc 1919, depuis léniniste depuis 19, et staliniens ont embrayé dessus. Et donc la SFIO, parti socialiste, a publié une affiche extraordinaire en disant Les fascistes n'admettent qu'un seul parti, le leur, Staline aussi. Les fascistes ont exploité des millions d'esclaves dans des camps de concentration, Staline aussi. Les fascistes n'admettent qu'une presse aux ordres, une radio domestiquée, un cinéma asservi, une littérature dirigée, des syndicats obéissants, Staline aussi. Les fascistes ont piétiné outrageusement les droits des petites nations et les ont annexés, Staline aussi. Les fascistes ont assassiné leurs adversaires politiques, corrompu tous les milieux, placé leurs agents dans tous les pays et organisé partout de redoutables cinquième colonne, Staline aussi. Les fascistes ont déifié leur doute et leur fureur, présentés comme l'homme providentiel, les staliniens aussi. Le Parti communiste français n'est plus un parti ouvrier, c'est la cinquième colonne de l'impérialisme totalitaire stalinien. Travailleurs, attention, pas de collaboration, ni avec la réaction fasciste, ni avec le stalino-fascisme. C'est extraordinaire.
Ça, c'est la CFIO en 1938.
Voilà, ça c'est
bon,
extraordinaire.
Bon, alors il faudrait revenir, on n'a pas le temps, hein, sur l'histoire aussi tumultueuse des relations entre le Parti communiste et le Parti socialiste, enfin, et la mouvance socialiste. Mais c'est quand même révélateur d'un état d'esprit.
Tout à fait.
Hein, et d'une prise de conscience aussi.
C'est une prise de conscience.
Prise de conscience.
Et aujourd'hui, je vous citais Mémorial tout à l'heure. Mémorial est une association d'hommes et de femmes de bonne volonté, d'hommes et de femmes de progrès, où il y a beaucoup de gens qui pourraient se qualifier de gauche. Et donc, ces accusations éventuelles...
Puis la vérité n'est l'apanage de personne.
La vérité n'est l'apanage de personne.
Là, on est dans le devoir de mémoire
de gauche
et la vérité.
Ou de droite, quand on ment,
ça reste un mensonge.
Ça reste un mensonge.
Ça reste un mensonge. Ouais. Un mot de sémantique. Vous savez, il nous reste 3 minutes. Hein, sur la paix, les termes un peu, vous savez, dont l'Union soviétique, que l'Union soviétique a su parfaitement utiliser dans l'opinion occidentale.
Oh que oui.
Comme
la
les mouvements
paix, le
hippies qu'elle a financés,
surtout,
les sectes aussi.
Tout à fait. Alors, bon, commençons en allant en arrière. Les sectes, oui, contre le catholicisme.
En Pologne en particulier.
En Pologne en particulier. Il y a des documents, des archives qui sont parlants. Il faut encourager les sectes pour contrer l'Église catholique.
Les trafics de drogue, le terrorisme aussi.
Absolument. Les hippies ont été financés à grands frais, même si cela a ensuite servi de boomerang, c'est-à-dire que finalement les soviétiques ont vu dans leur propre pays des gens
68, un peu.
Love and peace, bon, qui n'ont pas, qui les ont dérangés. Mais pour la paix, alors ça, ce mot sur la paix, c'est extraordinaire, et là on lit la sémantique et le mensonge. À l'ONU en 1951, à Paris, c'était à Paris le 8 novembre 51. Wyszyński, le terrible procureur qui a condamné à mort dans des procès montés des centaines de gens totalement innocents, eh bien, Wyszyński dit ceci à l'ONU, je le cite, « L'Union soviétique utilise toutes ses ressources... » Non, je reprends. « L'Union soviétique utilise toutes ses ressources non pas pour augmenter ses forces armées, non pas pour augmenter sa production de guerre, non pas pour organiser sur le territoire d'autrui des bases militaires. Nous n'avons pas de bases militaires sur les territoires d'autrui nulle part, mais pour développer au maximum la production civile, pour développer son économie nationale et la paix. » Et alors, les Russes et les Européens de l'Est, plongés dans la misère, la ruine des économies nationales, jusqu'après la chute du régime communiste, grinçaient des dents. Les pays annexés, les pays occupés, les pays de l'Europe de l'Est, du glacis soviétique, du pacte de Varsovie, couverts de bases militaires soviétiques, ne pouvaient que se taire ou s'insurger ou résister, démonter les montages, démonter le mensonge, prévenir les nations libres et naïves et attendre leur heure pour revenir en Europe libre, ce qui est Dieu merci fait, mais c'est dans ce contexte que le 9 mai à Moscou, avec tous ces mensonges qui ne sont pas contredits, est une tragédie.
En tout cas, vous avez fait œuvre de mémoire, hein, du devoir de mémoire. Hein,
j'ai essayé, mais qu'est-ce que la voix d'une femme ? Enfin, maintenant, nous sommes deux. J'espère,
il y a eu aussi d'autres voix de personnes éminentes, hein, quand même, qui se sont élevées, qui n'ont pas forcément été entendues, mais qui, au bout du compte, le sont.
Voilà.
Espérons-le, en tout cas. Merci beaucoup, Alexandre Aviato. Je rappelle que vous êtes professeur en journalisme européen à l'Université de Marne-la-Vallée, que vous avez signé plusieurs ouvrages, que ce soit sur Katyn, la désinformation. Et je rappelle simplement celui-ci, Staline assassine la Pologne, c'est aux éditions du Seuil pour ce jour dans l'histoire, un certain 9 mai 2005. Thank you.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.